Bonjour, je m'appelle donc Yann, je vais avoir 41 ans au mois de septembre prochain. Je tiens à témoigner de la maladie de la dystonie. Donc mon histoire en fait, c'est que tout simplement j'ai fait ma première anxio-dépression à l'âge de 12 ans, de façon chronique. J'ai même ce qu'on appelle le profil borderline, c'est-à-dire de personne à l'état limite, dans le sens où je suis très sensible à l'anxiété et aux émotions. Et donc j'ai une certaine sensibilité, fragilité. Et entre 35 et 40 ans, donc plus particulièrement on va dire à l'âge de 36 ans, effectivement je rentrais dans une phase anxio-dépressive, ce qui n'était pas tout à fait nouveau. C'était un nouvel épisode. Et puis d'une façon très subite, j'ai observé ça au travail, parce que je devais faire certaines choses qui m'ont permis de remarquer que je commençais à avoir des difficultés avec mon cou et ma tête, des positions bizarres, une position bizarre de ma tête, et accompagnée de tremblements et de difficultés à rectifier l'axe de ma tête. Et n'ayant aucune information sur ce qu'était la dystonie, je n'en avais jamais entendu parler. Évidemment, pour moi, il y avait la logique que cette fois-ci, à cet âge-là, l'anxio-dépression avait gagné du terrain dans le sens où cette fois, elle prenait une forme physique. Par exemple, on peut même dire de somatisation. Donc évidemment, j'étais encadré par un psychiatre, donc on a évoqué le problème, donc on a attaqué traitement antidépresseur, anxiolytique, ce qui était quand même justifié, ce qui était justifié par mes états internes. Par contre, aucune amélioration au niveau des muscles du cou. Vraiment aucune. Et puis, j'ai développé la phobie sociale à cause, maintenant avec le recul, je le sais, à cause de mes postures du cou. Voilà, j'avais peur. J'avais peur du regard des autres parce que je savais très bien que ma tête n'était pas dans un axe normal. Et je craignais énormément le regard des autres. Donc j'ai fait la phobie sociale à tel point que je suis arrivé au stade d'avoir peur de sortir de mon appartement. Et puis ce qui était étrange, c'est que même si j'étais chez moi pour prendre une tasse en hauteur, en étant tranquille, concentré sur des activités douces, relaxation ou peu importe, mes centres d'intérêt, j'avais cet axe de la tête qui ne partait pas. Donc pour moi, j'ai encore raisonné en termes de dépression anxieuse majeure avec phobie sociale, à tel point que anxiété, on sait que le stress et l'anxiété, ça je l'ai su après, malheureusement peuvent être des facteurs aggravants de la dystonie. Donc je me suis retrouvé dans un cercle vicieux, donc j'avais du mal à sortir de chez moi, j'ai perdu de l'énergie. Et un jour j'ai décidé d'aller voir mon médecin psychiatre en lui disant il faut m'aider, j'y arrive plus, je suis trop fatigué. Et mon corps, ma tête, tout ça, ça me fait mal. Donc j'ai été volontairement, j'ai choisi d'être hospitalisé dans une clinique où j'ai eu une bonne prise en charge. La psychiatre, elle, m'a dit, écoutez, par rapport à votre coup, j'aimerais bien que vous alliez voir un neurologue. Tout ça pour vous dire que au moment où les problèmes de cou sont apparus, et ce premier rendez-vous avec un neurologue, on peut compter, on va dire, une année et demie, sans aucune information sur la dystonie. Donc je me rends chez un neurologue qui d'ailleurs très compétent, mais j'étais accompagné de mon père en fait. Et j'ai interrogé mon père récemment sur les souvenirs qu'il a de l'entretien. Et on est sûr que aucun de nous deux n'a entendu le mot dystonie ni torticolis spasmodique. J'ai eu l'occasion de lire le compte-rendu. Il est écrit, le professionnel parle de mouvements dits complexes, et comme possibilité de traitement suite à ces mouvements complexes, soit d'un médicament ou d'injection ou de piqûre de toxines botuliques. Alors évidemment, ne connaissant pas la dystonie déjà, alors donc la dystonie n'a pas du tout été évoquée, ni le terme de torticolis spasmodique. Et donc, par ce manque aussi d'informations, d'un seul coup, on me parle de soit prendre un médicament puissant, soit des piqûres dans le cou avec des difficultés parce que proche de la carotide. J'étais en même temps hospitalisé et fragilisé par l'anxiodépression, et du coup ça m'a fait peur. En tout cas, je savais que c'était une mauvaise, que j'avais quelque chose qui allait durer, qui n'était pas facile. Et tous ces traitements, ces piqûres, tout ça, ça m'a pas du tout inspiré, et j'ai eu un rejet de colère interne par rapport à ce genre de traitement. Pour moi, c'était pas clair, quoi. On proposait des traitements alors qu'il n'y avait pas de terme, on parlait juste de mouvements complexes. Et du coup, pour moi, c'était encore lié à un état anxio-dépressif. Donc, j'ai rejeté une première possibilité de soins, de prise en charge qui s'approchait donc de la dystonie, sachant que je ne savais pas encore ce que c'était. Entre ce moment et le moment où j'ai eu des informations, il s'est écoulé bien 3-4 ans. J'ai découvert la dystonie et plus parti et le torticolis spasmodique en fait sur Internet. Un peu par hasard en faisant enfin, par hasard en faisant des recherches personnelles, je suis tombé sur la vidéo. Une vidéo Amadis qui a été réalisée par une dame, je m'excuse, j'ai oublié son prénom, et que je remercie l'équipe et ces dames qui ont fait cette vidéo. Une dame qui réside en Guyane et qui donc témoigne de ses difficultés, notamment du torticolis spasmodique, mais elle avait aussi des problèmes oromandibulaires. Et avec son témoignage, je vois que ce que j'ai, effectivement, il y a vraiment de très très fortes chances que ça fasse partie de la. Donc, j'apprends que la dystonie existe, et ensuite, qu'il y a un terme qui s'appelle le torticolis spasmodique. Et j'ai oublié de préciser que j'ai développé également la crampe de l'écrivain quelques temps après le torticolis spasmodique. Et je crois qu'effectivement mes recherches sur Internet ont commencé par la crampe de l'écrivain, dont le terme m'avait été donné effectivement par mon psychiatre, mais n'avait pas encore évoqué le terme de dystonie, mais de crampe de l'écrivain. Et via la crampe de l'écrivain sur YouTube, j'ai vu des vidéos, d'autres vidéos sur, et dont le torticolis spasmodique. Voilà. Ce que moi je peux dire, c'est donc avec cette vidéo, j'ai eu des informations, des témoignages, des images, parce qu'on a des choses, mais on ne sait pas trop. Ce témoignage m'a fait rebondir sur le site internet de l'association Amadis, et donc là j'ai eu encore plus d'informations. Tout cela m'a permis de choisir au moins un rendez-vous avec un neurologue, le docteur Hino de Rennes, qui effectivement a confirmé le diagnostic d'un torticolis spasmodique, de la crampe de l'écrivain et l'hypothèse d'être un porteur multifocal, ce qui, ça, je ne savais pas non plus. Et tout cela, ça a été fait en début d'année. Donc, le calcul est facile à faire, hein, ça a démarré à 35-36 ans, et donc là, je suis dans ma 41e année. Voilà. Personnellement, je ne me plains pas trop, parce que au final, petit à petit, cela fait son chemin, et surtout parce que j'ai pris connaissance d'autres facteurs. Il y a des gens, des hommes, des femmes, qui ont attendu, entre guillemets, 15 ans, 20 ans, 10 ans, avant qu'il y ait un concours de circonstances qui leur permette de rencontrer un médecin généraliste, une infirmière, etc., qui leur parle du mot dystonie. Et donc aboutir à des informations qui les orientent vers le chemin de la guérison, c'est-à-dire, guérison, je souhaite pas m'avancer là-dessus, mais au moins les diriger vers une prise en charge adaptée, et aussi d'être rassurés sur le fait que ils ne sont pas fous, ce n'est pas psychiatrique, c'est une réelle maladie, c'est une maladie rare, et donc ça m'a énormément interpellé, ce laps de temps qui peut s'écouler, d'autant plus qu'on sait que la vie est assez courte, hein, la vie humaine, hein, en moyenne, c'est 80 ans, en moyenne. Et donc, 15 ans dans une vie, 10 ans, même 5 ans, sans information, voilà, c'est long. Donc voilà, moi, c'est ce que je retiens de mon expérience de vie, et ce qui m'a motivé à contribuer un peu à l'association Amadis, c'est de faire d'œuvrer comme on peut pour que l'information arrive le plus tôt possible aux personnes concernées par les difficultés de cette maladie rare. Ça, c'est une première chose. Donc, un accès à l'information plus rapide, un accès à l'orientation aux soins plus rapide. J'ai trouvé également remarquable qu'il y ait une aide Amadis au niveau administratif, parce que c'est pas évident, hein. Il faut penser à la prise en charge en ALD, hein. On n'est pas tous au courant que les affections longue durée existent. Nous ne sommes pas tous au courant qu'il est possible, dans certains cas, d'envisager la reconnaissance qualité travailleur handicapé, qui se fait via la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Donc tout ça, c'est des choses, forcément, quand on n'est pas exposé au problème directement ou un membre de sa famille, on ne sait pas tous ces recours. Et on peut avoir ce genre d'informations sur le site Amadis, et donc prendre contact avec un délégué départemental ou régional qui vous donnera la main. Et moi, je trouve que avec moi, ce qui m'a, il y a un fait qui m'a marqué, c'est que lorsque je me suis inscrit chez Amadis pour donner la main dans la mallette du délégué, il y avait une revue, les revues Amadis, hein, qui sont complètes, où on vous donne des nouvelles sur l'avancée de la recherche, des témoignages, ça aussi. Des témoignages de personnes, où on est l'association, quelles ont été les réunions organisées par l'association, les manifestations culturelles, physiques, pour récolter des dons. Et donc j'étais en train de prendre le train, c'est la première fois que je prenais une de ces revues, et je suis allé sur... j'ai commencé à la bouquiner, j'ai vu les témoignages, j'ai lu les témoignages, et puis avec cette revue en main, avec très complète, avec des témoignages de personnes, je me suis senti moins seul. Parce que je suis le seul enfin, je suis sans doute pas le seul dans ma famille, mais les personnes, malgré mon dialogue très ouvert, n'ont pas saisi la perche que j'ai lancée, donc que je suis le seul dans ma famille à m'être, entre guillemets, déclaré officiellement atteint de cette maladie rare. Mes parents, tout va bien, voilà. Et donc, ben, autour de moi aussi, c'est une maladie rare, je veux dire au travail, dans pas mal d'endroits. Pour l'instant, j'ai croisé une personne qui est atteinte de dysphonie, qui est ma professeure de yoga. Mais sinon, voilà. Donc, le fait d'adhérer à Amadis casse une forme de solitude. Et ça fait du bien, ça fait du bien. On n'est pas les seuls. Et puis, il y a des échanges. On voit que ça bouge, on voit qu'il y a des choses qui sont là, qu'il y a des personnes qui sont volontaires. Et moi, je tire mon chapeau à toutes les personnes atteintes de la maladie, tous les bénévoles atteints de la maladie, les proches, ceux qui, et aussi, bien sûr, d'autant plus aussi, les gens qui s'y intéressent sans être concernés du tout, mais qui y sont sensibles. Et voilà, il y a quelque chose qui est là, il y a quelque chose qui bouge, voilà, on se sent pas seul, on se sent rassuré, on se sent bien là-dedans. Et puis voilà, si jamais c'est très complet, si on a des coups de blues, des choses comme ça, on peut contacter le délégué, départemental, régional, etc. Il y a même une ligne téléphonique. Donc voilà, c'est grâce à des associations type Amadis, il y a une conscience qui fait en sorte d'accélérer la prise en charge de par l'information auprès des malades. Voilà. Après, pour parler de témoigner. Comme on dit, il y a plusieurs dystonies, en plus on a tous chacun un peu notre dystonie. C'est vrai que ce qui n'est pas facile, c'est le regard de l'autre. Enfin, moi je suis sorti de la phobie sociale, mais j'ai toujours des fois, c'est pas évident, notamment pour un homme qui je suis seul, hein, je suis célibataire. Alors, ne le prenez pas comme une annonce, hein, c'est pas du tout ça. Voilà, c'est juste pour faire un peu d'humour. Mais par exemple, pour un homme, pour moi, c'est très difficile de regarder une femme dans les yeux. Parce qu'il y a de l'émotion quand on trouve une femme qui est belle. Et les émotions, chez moi, peuvent accentuer le torticolis spasmodique. Et un visage qui apparaît comme très tendu. Donc une impression de colère ou de tension, et ça m'a toujours porté préjudice, en fait. Ça m'a toujours porté préjudice. Donc ça, le regard des gens dans les grandes surfaces, choses comme ça. Et avec le temps, finalement, avec notamment le fait que je sois au courant de la dystonie, j'y fais plus trop... je sais que c'est là, et je m'autorise de plus en plus à être moi-même. Et du coup, je suis plus à l'aise. J'accepte de plus en plus cette difficulté. Et je sais que je suis pas le seul. Donc voilà, ça c'est mieux. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Donc je suis content. Je suis content quand je vais faire des courses, quand je marche dans la rue. À mon cours de yoga aussi, je fais du yoga. Et à mon cours de yoga, ben j'ai tout de suite prévenu ma prof. Et dès que j'ai des mouvements, bah, je m'autorise les mouvements. Je laisse aller mon corps, parce que mon corps a envie de parler, et il a le droit de parler. Ça, c'est très important, et ça fait du bien. Voilà, c'est... mais c'est sûr qu'il y a un impact... ça, c'est écrit dans les textes également. Il y a un impact esthétique. Esthétique. Les différentes formes de dystonie ont une forme esthétique qui, effectivement, dans certaines situations, en tout cas, entame un peu la confiance, je dirais, entre les relations hommes-femmes, pour ceux qui sont seuls ou qui souhaiteraient faire une rencontre et construire leur vie. Ça c'est quelque chose d'important à souligner également. Mais ce qui fait du bien, c'est d'être soi-même. Et je me dis que si un jour, je pense, j'y crois profondément, hein, si un jour quelqu'un vous aime, je pense qu'il passera, ou elle passera, au-delà de cette, entre guillemets, vitrine, de cette image de premier plan, parce qu'on ne pourra jamais, et ça c'est fondamental, j'insiste beaucoup là-dessus, on ne pourra jamais résumer une femme, un homme, un enfant, un adolescent, une personne âgée, par rapport à une, voire même plusieurs problématiques. Parce que le cerveau, comme on le sait, a des milliards de neurones. En gros, nous portons en nous la complexité de l'univers, l'organisation, la matrice universelle. Et donc, on ne peut pas résumer une personne à un événement qui se passe en lui. Et je pense c'est même sûr, il y a des personnes qui ont cette humanité de passer au-delà d'un premier rempart visuel. Et ça, c'est très important. Après, moi, ce qui m'aide, alors je dis pas ça, c'est pas pour donner ma recette, c'est juste pour témoigner, hein. Moi, ce qui m'aide, alors j'aime bien le yoga, hein, parce que j'en ai besoin, parce que c'est vrai qu'avec la dystonie, j'ai un corps qui est très raide, notamment le haut du dos, les cervicales, mais comme je suis quelqu'un de nerveux et d'anxieux, je pratique le yoga pas parce qu'on me l'a obligé, mais j'y trouve du plaisir. Voilà. J'y trouve du plaisir, je trouve ça chouette, j'aime bien. Donc j'y vais par plaisir, j'y vais pas uniquement dans un cadre, il faut que j'y aille. La formule, il faut que, parfois c'est bien, parfois c'est pas ce qu'il faut, donc j'y vais parce que j'aime bien. Je suis quelqu'un qui aime, par exemple, les langues étrangères, donc je vais sur un site internet, j'en fais un petit peu. En gros, ce que je souhaite transmettre, c'est que si vous avez un jardin du cœur, quels que soient vos centres d'intérêt, de le cultiver, même si c'est 2 minutes, même si c'est 1 minute, même si c'est 30 secondes, c'est important. Par exemple, moi j'aime également la nature, donc effectivement, en toute honnêteté, je ne vais pas tous les jours dans la nature, mais par exemple, j'essaye d'aller au boulot à vélo. Donc je prends un bol de nature le matin, le soir. Si le week-end, je sens que j'ai du temps et que je suis pas trop fatigué, je prends mon vélo et pareil, je vais aller soit m'asseoir, soit marcher un tout petit peu au contact des arbres, de la nature, sentir le vent sur mon visage. Ça me fait du bien. Quelque chose qui m'aide aussi beaucoup, c'est que j'ai un humour particulier que je tiens notamment de mon grand-père. Et j'aime beaucoup rire. Au travail, par exemple, au travail, si je peux pas, entre guillemets, faire rire les gens ou de rire avec les gens, voilà, le rire, ça fait du bien de dire bonjour, ça fait du bien de voir quelqu'un sourire, ça fait du bien. Après, plus personnellement, j'ai un côté spirituel, je ne développerai pas ça parce que c'était très privé et je tiens au principe de la laïcité. La spiritualité m'aide également, me porte, voilà, de par ses valeurs. Il y a ça. J'ai la chance aussi d'avoir des parents qui prennent de mes nouvelles régulièrement. Voilà. Ce qui me porte également, c'est que quand j'ai pris connaissance de la dystonie, du torticolis spasmodique, j'ai pris la décision d'une politique de transparence. Je dis bien prendre le risque parce que des fois ça passe, des fois ça passe pas, ne serait-ce qu'au niveau professionnel. Par exemple, récemment, j'ai commencé un CDD le 1er septembre 2016. Alors au cours de l'entretien, J'ai pris la décision de faire un entretien sans amorcer le sujet. Mais par contre, une fois que l'entretien avait été validé, j'ai été voir mon responsable technique et les ressources humaines en disant voilà, j'ai la dystonie, etc. Ils l'ont accepté, j'ai été voir les autres collègues. Et ce qui fait que ça rend tout de suite les choses beaucoup plus faciles. Tout le monde est au courant et les gens sont au courant par vous. Ça évite, je pense, peut-être, parfois, les gens sont majoritairement, il y a beaucoup de gens qui sont quand même bienveillants, mais au moins ça évite aux gens de se poser des questions. Et cela, ça a été vérifié. Un jour, je travaillais sur un ordinateur et il y a un collègue assez jeune, de l'ordre de 25 ans, qui lui était aussi en CDD, est venu vers moi, il me fait, écoute, Yann, je souhaite te poser une question. Je lui fais, bah écoute, vas-y, il me fait, voilà. Qu'est-ce qui fait que tu marches la tête comme ça? Je préfère moi te poser la question plutôt que d'entendre des choses et de ne pas connaître la vérité. Et donc, à nouveau, enfin, la transparence d'expliquer, voilà, j'ai expliqué ce qu'était la dystonie, j'ai expliqué que j'avais un torticolis spasmodique, la crampe de l'écrivain, et que c'était pour ça que j'avais des positions corporelles hors normes, entre guillemets. Et voilà. Et du coup, donc voilà, et tout ça permet de se faciliter énormément la vie dans la famille, auprès des amis, et aussi le milieu professionnel. Voilà, je crois que moi j'ai déjà pas mal parlé, c'est déjà, je pense avoir abordé les choses. Le message que, si je pouvais résumer, c'est information, prise en charge. Communication, en parler, ne pas hésiter à en parler, c'est le slogan d'ailleurs de l'association, en parler autour de soi. Si on a peur d'en parler autour de soi, d'en parler à des personnes, vous pouvez aller sur le site Amadis, vous commencez à en parler, ils pourront vous écouter parce qu'ils connaissent. N'hésitez pas. C'est vrai qu'un des pièges de, c'est pas que la dystonie, hein, ça pourrait être Parkinson ou autre, hein, c'est de, et moi le premier, hein, j'ai eu une phase où je me suis replié grandement sur moi-même, hein, de par le regard des autres, et j'acceptais pas trop ma situation. Donc en parler comme si on discutait de la confection d'une pizza, ça démystifie. C'est important de démystifier, ça ne veut pas dire de négliger le fait que vous soyez concerné par cette problématique, mais voilà, c'est pas parce que des sujets ont un certain degré de gravité, si on peut arriver à y mettre un peu d'humour, un peu de légèreté, ça facilite grandement les choses et ça apaise l'intérieur, ça apaise les émotions, ça apaise l'esprit et du coup c'est bénéfique pour tout le monde. Ça se ressent dans ce que vous dégagez. Donc votre famille, vos amis peuvent le ressentir également. Ils savent que vous avez des difficultés, mais le fait que vous en parliez naturellement fait que ça crée un climat d'apaisement. Effectivement, il y a une conscience, il y a une conscience de l'entourage, que vous vivez des choses, mais ils ont conscience que bah, vous connaissez le sujet, vous faites votre petit bonhomme de chemin, et tout ça, c'est extrêmement important. Voilà, et oui, pardon, dernière chose, si vous avez un jardin secret, enfin, un jardin de loisirs, de choses qui vous apportent de la chaleur dans votre cœur, à l'intérieur, des choses qui vous font du bien. Si vous pouvez, le faire. Si jamais c'est des choses qui coûtent cher, réfléchir à pouvoir le faire de manière moins chère, hein, plus simplement, mais quand même de garder l'idée comment je pourrais me rapprocher de mes centres d'intérêt. Ça, c'est important. Surtout aussi également, si, comme moi je l'ai connu et que je peux des fois le connaître, si vous avez peur de, sortir dehors ou hésiter d'aller au restaurant parce que votre dystonie est un peu plus forte. Mais par contre, bien sûr, hein, si vous n'êtes pas trop fatigué, hein, parce qu'il faut aussi gérer la fatigue, essayez d'aller et de vous dire, ah, tiens, j'ai une amie qui m'a invité d'utiliser un peu le principe de la balance. C'est-à-dire que, bon, bah, si j'y vais pas, ok, la dystonie, elle sera peut-être moins forte. Peut-être. Parce que c'est pas une certitude. Qu'est-ce que je vais rater? C'est vrai que je m'entends bien avec cette amie, ou, ben, ouais, c'est dommage, hein, ce soir, je serais peut-être seul, alors que là, on pourrait bavarder, rigoler, peut-être faire une petite balade, voilà. Essayer de continuer à être en contact avec la vie sous toutes ses formes, et surtout garder une petite vigilance dans le coin de la tête quand vous voyez que vous vous refermez, que vous vous isolez, parce que ça c'est un piège, et c'est un piège qui est énorme, et malheureusement c'est un piège qui va très vite, très insidieux, c'est très rapide, donc voilà. Voilà, je vous dis, je vous transmets toutes mes meilleures pensées, du courage, mais aussi du plaisir, plein de bonnes choses, et en vous souhaitant aussi la meilleure prise en charge qu'il puisse vous être donnée, et vous, personne de famille ou ami, de vous remercier d'être présent. De passer au-delà seulement du critère de la maladie et de continuer tout simplement comme avant votre relation avec la personne qui vous est chère. Merci, au revoir.